artiste. En fait, je me suis jamais vraiment posé la question si j'étais une artiste ou pas. J'aime bien, en fait, cette formule mathématique qui est la tangente du cercle. En fait, je pense que l'artiste, c'est le point de jonction entre le cercle et la tangente. J'aime bien cette image. On n'est jamais complètement dans le cercle, mais on le regarde. Le cercle, la société, bien évidemment. Et la tangente, c'est une espèce de point d'équilibre. Voilà, c'est peut-être cette formule mathématique qui me vient, cette image mathématique qui me vient à l'esprit. Mais je pense que chaque artiste invente le fait d'être artiste, sa définition. Chaque artiste s'invente.
Vous écoutez Cube Rouge ? Le podcast d'entretien où des plasticiennes contemporaines nous livrent le récit de moments clés de leur parcours de créatrice. Je suis Isabelle de Maisonrouge. Je suis critique d'art, commissaire d'exposition indépendante, historienne de l'art et autrice. En tant que femme, je m'intéresse aussi à la position des femmes artistes dans l'histoire de l'art et aux questions qu'on ne leur pose pas assez. Comment poursuit-on sa route dans le monde de l'art et réussit-on à montrer son travail et le faire accepter? Comment vit-on de son art? Comment parvient-on à exister en tant que créatrice? L'artiste avec qui je discute aujourd'hui est Claude Como. Elle est peintre, mais elle aime sortir du cadre. Aussi n'hésite-t-elle pas à utiliser d'autres médiums que la peinture à l'huile. Elle la mélange parfois à la résine. Elle crée également avec la céramique, la porcelaine. Et depuis quelques années, elle réalise à l'aide de la laine de grandes compositions libres qui se déploient à même les murs et le sol. C'est par la technique du tufting qu'elle a découvert, exploré et développé à sa manière qu'elle peut peindre dans des formats qui deviennent gigantesques et immersifs en laine vivement colorée qu'elle appelle touffetée. Ces pièces envahissantes mais douces invitent au toucher et provoquent un véritable effet haptique. Les thématiques que Claude Como développe en longues séries où elle les explore en profondeur reviennent au sujet classique, le portrait, la figure humaine, l'animal, la végétation, le vivant sous toutes ses formes en somme. Gaïa reste donc le centre de ses préoccupations.
Alors là, nous sommes dans ton atelier, qui est le lieu du travail, le lieu de la création, de la mise en forme. C'est aussi un atelier qui est très grand, que tu as conçu, imaginé, transformé pour toi. C'est ton lieu de travail, c'est aussi un lieu dans lequel tu accueilles du monde. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ce lieu? Est-ce que tu peux nous parler aussi de ton processus créatif?
Alors, le lieu, c'est un hangar que j'ai fractionné en plusieurs espaces. Avec une partie jardin et la baie vitrée donne sur ce jardin. Et ça fait partie intégrante de mon travail. J'ai besoin d'être en relation directe avec l'extérieur. Je pense que peut-être que c'est mes années où j'ai vécu en Afrique, où le rapport entre intérieur et extérieur n'était pas aussi fractionné, aussi cloisonné qu'en France. J'étais en Côte d'Ivoire, j'ai grandi en Côte d'Ivoire jusqu'à l'âge de 16 ans et j'ai vécu beaucoup à l'extérieur. Donc j'avais besoin d'un espace qui communique entre l'intérieur et l'extérieur sans cloisonnement. Dans cet atelier, en fait, il y a plusieurs endroits. Un endroit où je fais du tufting, qui est une sorte de tapisserie en forme libre. Il y a un endroit où je dessine, un endroit où je stocke mes laines, des endroits où je fais de la céramique. En fait, j'ai plusieurs postes de travail et au gré de mes envies, je passe du dessin à la peinture, à la laine et à la céramique, à la terre. Donc c'est vrai que le fait d'avoir un grand atelier me permet un petit peu de m'amuser sérieusement, mais de m'amuser quand même, et de passer finalement, c'est comme si j'avais un grand bac à sable, finalement, où je voyage un petit peu avec des médiums différents.
Et donc le tufting, tu en es arrivé comment ? Parce qu'au départ, tu étais peintre.
Je suis toujours peintre. Voilà. Je ne pense pas que le tufting m'a... pour moi, c'est une manière de peindre avec de la matière, qui est la laine, et de peindre dans l'espace, de proliférer dans l'espace, de développer ce que j'appelle la forme libre, cette forme finalement qui peut se développer au sein même de l'architecture, sur les murs, même envahir le sol d'ailleurs, et même parfois prendre des formes de maison. C'est juste la continuité de mon travail que j'avais déjà entrepris avec une problématique que j'avais déjà développée, que j'ai développée en fait depuis les années 90, puisque mon travail de peintre s'est focalisé au tout début à travers le portrait. Donc sur ce portrait, je mettais en majesté un visage sur un fond en aplat, et finalement ce visage très découpé avait une volonté de sortir, de jaillir en fait de la toile. C'est une problématique qui s'est développée petit à petit pour après finalement devenir des tapisseries, et où je me suis émancipée du châssis, où finalement la forme a fini par se libérer du châssis.
Et là, tu es plutôt dans une approche avec un rapport avec la végétation, avec le paysage, et donc plus forcément le portrait.
Alors, la question du portrait que j'ai développé, je vivais à Paris, et il n'y avait pas vraiment de confrontation à la nature à ce moment-là. La végétation était plutôt pauvre. Petit à petit, quand même, dans les années 2000, j'ai réalisé une série de tableaux. Enfin, une série, j'aime pas trop dire ce mot, un sujet qui s'appelle Rosa Cerdos, où je pose la question du sujet à travers une rose, une fleur, où je fais 1000 tableaux à partir d'un seul sujet, de 2000 à 2002. Je continue le travail sur la nature, mais la nature à ce moment-là est plus un décor, est plus un environnement à mes figures, à des scènes de genre. Mais il y a quand même une interaction entre ces corps et la nature. Il y a des sortes de proliférations végétales à l'intérieur des corps qui vont se développer dans les fonds de mes tableaux. Et à partir des années 2012, j'arrive à Marseille, donc là je déménage, je quitte Paris, et tout d'un coup je découvre la ligne d'horizon. Et donc la ligne d'horizon m'ouvre, alors là pour le dire, faut le dire, m'ouvre des horizons. Et là le paysage devient le sujet. Mes peintures se traduisent par des grandes étendues de peintures très fluides, des grands formats. Et du coup ce sujet se développe aujourd'hui avec une focalisation sur le monde végétal, mais animal aussi. Parfois, je suis un peu à la limite entre eux aussi, une approche de l'imagerie scientifique, puisqu'en fait, il y a des éléments touffetés dans mon travail, que j'appelle des cellules, comme des éléments qui vont se reproduire et qui vont modifier des formes sur les murs, qui vont modifier des formes dans les compositions de tapisserie. Donc en fait, j'ai une interaction quand même entre le monde végétal, qui est quand même assez puissant en termes d'inspiration. J'ai une grande fascination en fait pour la nature. Depuis ma toute petite enfance, Je pouvais passer des heures. Alors là, comme je vous ai dit, j'ai grandi en Côte d'Ivoire mon père m'emmenait, en tant que chercheur, il m'emmenait dans des réserves et j'étais sans arrêt en observation, soit du monde animal, soit du monde végétal, enfin de la nature. En fait, j'ai été un petit peu comme une sauvage dans les paysages africains, dans les paysages de Côte d'Ivoire. Donc je retrouve un petit peu cette enfance que j'ai jamais quittée, en fait, finalement. Je dis retrouver, mais en fait, je l'ai jamais vraiment quittée. Donc je reste toujours dans cet univers. Il s'est juste amplifié, il s'est juste développé, voire même envahi chez moi, dans mon atelier, voire même dans les expositions, il y en a partout.
Et peux-tu revenir sur le moment où tu as décidé ou compris que tu étais artiste? Est-ce qu'il y a un moment, est-ce qu'il y a un souvenir précis dans ta vie où tu as senti que ta vie allait être consacrée à l'art? Est-ce que ça remonte justement à ton univers familial, ton enfance, ou est-ce que c'est arrivé au fil de l'eau?
Alors, bon, bien sûr, j'ai toujours dessiné. À l'âge de 5 ans, on m'avait offert j'avais demandé un tableau noir au Père Noël. Et ce tableau noir, étrangement, était placé sur un chevalet. Et donc, tous les samedis après-midi, je décidais de faire une composition d'un ballet de danse avec tous les détails. Et j'avais mis en place des règles de composition, c'est-à-dire qu'il y avait un groupe dessiné à gauche, il y avait un groupe dessiné à droite, suivant un axe. Donc, je mettais déjà des règles pour mettre en place un tableau. D'ailleurs, j'appelais ça mon tableau. C'est même pas un tableau noir, c'était un tableau. Et personne n'avait le droit de dessiner ou d'effacer ce tableau jusqu'au samedi suivant. Donc en fait, je vivais avec ce tableau et je faisais ce que j'appelais mon travail. Donc j'étais déjà dans cette position de... C'était mon travail. Mais je savais pas, en Afrique, en Côte d'Ivoire, dans mon éducation, artiste, c'était pas un mot qu'on employait. Moi, j'étais fille de chercheur, fille de scientifique. On m'avait affublé de termes de fantaisiste quand à mon adolescence, et c'était vraiment pas quelque chose de sérieux. Mais moi, j'étais toujours à l'idée de faire mon travail comme ça dans ma chambre. Et puis, j'ai dû lutter quand même avec mon père. Pour lui faire accepter que je voulais faire des études, finalement, des études d'art. Et puis, il était absolument contre. Il trouvait qu'on ne pouvait pas gagner sa vie avec ça. Et moi, je lui disais, mais si. Et puis, finalement, il a fini par céder. Il m'a dit, bon, bah, finalement, tu pourras toujours être prof. Tu vas t'inscrire à la fac en art plastique. Et là... Là, ça a été absolument incroyable. J'ai rencontré des gens qui, finalement, on me parlait du mot artiste. J'étudiais la vie des artistes, ça existait. Donc, j'avais le droit. J'avais le droit, c'était possible. Et puis, on m'avait demandé de faire un travail en histoire de l'art. Et j'étais allée au musée Granet, c'était à Aix-en-Provence. Et il y avait Jupiter et Thétis de Ingres. Et tout d'un coup, c'est la première fois que je vois un tableau, parce que je n'étais jamais rentrée dans un musée. Donc, je ne sais pas, j'avais 19 ans quand même. C'est hyper tardif. Et là, je me rends compte, je voulais regarder, je voulais tourner le tableau pour voir ce qu'il y avait derrière. Je voulais voir comment c'était fait, je trouvais ça magique. Je trouvais ça incroyable. Mais en fait, quand j'étais adolescente, on m'avait acheté un livre. Et en Côte d'Ivoire, puisqu'il n'y avait pas de musée en Côte d'Ivoire, il n'y avait pas de toile, il n'y avait pas de peinture. Mon père avait juste des représentations de posters, d'illustrations au mur. Donc je ne savais même pas ce que c'était qu'une peinture. Et on m'avait acheté un livre où il y avait des Picasso, mais je n'avais même pas lu le texte. Et je recopiais des Picasso, sans savoir qui était Picasso. Et en fait, je m'appropriais ça comme des images. C'était des images que je recopiais. Je trouvais que les images étaient belles. Donc je recopiais des Picasso, je recopiais des Rembrandt, je recopiais des tas de choses, je m'inspirais des tas de choses comme ça, d'images. J'ai toujours trouvé quand même particulier ce désir que j'avais de toujours tout transformer. À 5 ans, on m'avait offert un nounours. Je m'étais empressée avec un marqueur de dessiner sur le nounours. Tout le monde était outré. Et en fait, ça me revient aujourd'hui, comme ça, en te parlant, que dès qu'on m'achetait quelque chose, je ne pouvais pas m'empêcher de le transformer. On m'avait acheté un livre, un super livre, j'avais tout découpé. Et la chambre de la poupée Barbie, moi je trouvais ça raide et vilain. Je m'étais empressée de tout démonter dans la chambre. Mais en fait, tout ce que je faisais, je bariolais, j'écrivais dessus. Et autour de moi, tout le monde me disait, mais tu gâches, tu détruis. Eh bien non, pour moi, je ne détruisais pas. Et en fait, peut-être que je reviens à la question du début, sur la définition. Peut-être être artiste, c'est transformer, c'est s'approprier. C'est s'approprier des choses du réel. Et peut-être que c'est ça. Et je me rends compte en te parlant que ça pourrait être une voie possible pour définir finalement ce qui pourrait être un artiste.
C'est intéressant. Et alors justement, j'aimerais bien rebondir sur une question qui est celle de l'intime, parce qu'on a très souvent enfermé les femmes artistes dans ce registre-là, et je pense que tu as des choses à exprimer là-dessus.
quel est l'artiste qui ne parle pas de l'intime? Ce n'est pas l'apanage quand même de des artistes femmes, pas du tout. L'écrivain, le cinéaste, c'est pas quelque chose de féminin, obligatoirement. On ne peut pas échapper à l'intime, finalement. Mais je pense à Deleuze, finalement, qui disait que ce qui nous intéresse, finalement, chez l'homme, c'est sa folie, c'est sa petite folie. Et l'artiste, ce qui nous intéresse, ce n'est pas la petite vie de l'artiste, non, c'est ce qu'il va nous raconter du monde. C'est-à-dire que, en fait, c'est... quand l'intime dépasse, la petite histoire personnelle de l'artiste, elle n'est pas très intéressante. Elle est juste un propulseur peut-être pour déclencher finalement l'intimité de tous. Ça me fait penser finalement au mathématicien qui va calculer tous les angles et puis il y en a un qui arrive et qui dit « ben voilà, moi je fais un théorème pour calculer tous les angles ». Voilà, c'est un peu, je fais un petit peu ces rapprochements. J'aime bien cette idée de finalement, l'intime, c'est juste peut-être un propulseur, mais c'est pas très très intéressant en soi. Ce qui est intéressant, c'est de dépasser ça.
Évidemment. Et donc, pour revenir à tes études donc, à Aix-en-Provence, après, comment ta carrière a pu démarrer et est-ce que ta carrière est, j'imagine que non, linéaire et est-ce que tu as eu des rencontres qui ont fait que ça a pu évoluer, progresser ou aussi des difficultés et est-ce que tu pourrais dire que c'est particulier aussi lié au parcours de femme artiste plus particulièrement?
Alors moi j'ai un parcours très jeune. D'abord, après mes études à Aix-en-Provence, je suis montée à Paris. Et très jeune, je suis rentrée dans une galerie importante, je crois que je devais avoir 28-29 ans, avec une série qui s'appelle Le Zombie Test. Donc très vite, je suis encouragée à une période où toutes les galeries ferment. J'arrive quand même en 92, 93, et les galeries, le choc pétrolier, la crise, la guerre au Koweït, bref, une situation sur le marché qui est très très difficile, où après la grande gloire des années 80, évidemment, la chute brutale des années 92, 93. Donc j'arrive à un moment donné... qui n'est pas facile. C'est comme si tout d'un coup j'avais une forme de reconnaissance professionnelle. Mais en fait, je mets ça de côté. En fait, à mon premier vernissage, je me rappelle, j'expose avec Dietmann, avec Pincemain, avec Macréo. Et c'est une expo collective où il y a 48 portraits de psychopathes que j'ai réalisés. Et au vernissage, je rentre chez moi après le vernissage, je me dis, ah bah c'est ça, une exposition, c'est ça, un vernissage. Je trouvais ça pas du tout passionnant. En fait, ce qui se passait dans mon atelier était tellement puissant, tellement j'étais dans l'exploration, il y avait quelque chose qui était tellement fort dans la réalisation de ces tableaux, de ces peintures. Enfin, je pense que j'étais barrée, quoi. Et du coup, l'exposition, ces premières expositions, je trouvais ça, mais pas ridicule, mais désuet par rapport à l'intensité de ce que je vivais dans mon atelier. Donc j'ai eu quand même une petite déception, mais j'avais bien compris qu'il fallait montrer mon travail pour en vivre, ou en tout cas pour continuer. Et pour acheter du matériel. Et finalement, 5 ans après, cette galerie ferme, et là je me retrouve sans galerie. Et pendant 10 ans, je me suis retrouvée sans galerie. Et là, c'était beaucoup plus difficile. Je me suis sentie très très seule. Mais j'ai fait des rencontres. J'ai fait des rencontres, il y a des personnes qui m'ont soutenue sur mon parcours. Elles n'étaient pas nombreuses, que ce soit des artistes, des amateurs, des avertis, des historiens. J'ai eu des très belles rencontres, avec des échanges très profonds, dans cette grande solitude. Et puis finalement, j'ai fait des expositions, mais de manière très irrégulière. En termes d'exposition, c'est un peu en dents de scie, mais mon travail était toujours quotidien, et toujours été très intense dans l'atelier. J'ai jamais perdu de vue, enfin en tout cas j'ai toujours vécu ça de manière très passionnée, voire passionnelle. Et puis, la question d'être femme dans ce milieu-là, en fait, je n'ai pas vraiment réalisé. Aujourd'hui, on en parle. On en parle beaucoup. Aujourd'hui, je le comprends. Et peut-être, je me dis que ceci peut-être explique cela, ces années d'isolement et de solitude. Mais je suis sûre que ce n'est pas que ça. Je pense aussi que le travail que je faisais à ce moment-là n'était pas, dans la tendance. Je me suis préoccupée de questions et de sujets qui n'étaient pas les préoccupations de ce qui était montré à cette époque-là. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle du genre. On parle justement de cette condition de femme dans la peinture, mais moi je me rappelle qu'en 2005 je faisais des natures mortes avec des bustes de femmes au milieu d'animaux morts qui venaient de l'histoire de l'art. Ça n'intéressait personne à ce moment-là. Quand je faisais ça, on regardait ça, dis donc, il n'est pas très... C'était pas très drôle, On n'avait peut-être pas envie de voir ça à ce moment-là. Et puis là, par exemple, la question du genre. C'est vrai que je faisais des nus qui étaient presque à la limite asexués. J'avais représenté, je me souviens, en 2006, des jeunes garçons habillés en filles, avec des bijoux, maquillés avec du rouge à lèvres, en train de déambuler sur mes toiles. C'était très bizarre. Les gens voyaient ça de manière très étrange. Ça s'appelait les insolents, ou ça s'appelait les cocottes. C'est un sujet dont on parle aujourd'hui. Donc, je ne sais pas si c'est, en tant que femme, évidemment, des collectionneurs s'intéressant à mon travail, puis m'invitant au restaurant une fois, deux fois, trois fois, voulant peut-être avoir autre chose que des toiles. Ça m'est arrivé, évidemment. Mais je crois que c'est pas uniquement en tant qu'artiste. C'est arrivé, je pense que ça, c'était à cette époque, dans le domaine, dans toutes sortes de professions. On a tous traversé, en tant que femme, ces situations. Voilà. Aujourd'hui, on en parle, MeToo, c'est très bien, c'est parfait. On peut avoir un regard sur ces années-là. Je regarde avec sourire. Je trouve que c'est pas mal. Moi, j'ai confiance dans les nouvelles générations. J'ai vraiment confiance en elles. Et c'est super.
Alors, à propos justement de nouvelles générations, tu as un enfant.
Oui.
Et donc, est-ce que la maternité qui est arrivée dans cette carrière d'artiste femme, est-ce que ça a posé un problème? Est-ce que c'était compliqué? Comment tu l'as vécu?
Alors, il y a plein d'angles de vue, en fait. J'ai eu, donc mon fils est né quand j'ai eu 30 ans, donc quand j'étais dans cette première galerie. D'abord, j'ai eu un peu la trouille, parce que je venais de rentrer dans une super galerie avec des marchands extraordinaires. Et j'ai pas osé leur dire que j'étais enceinte. Et puis finalement, au bout du cinquième mois, ça s'est vu. Et donc, je leur ai dit, je suis enceinte, avec une petite voix. Et ça a été accueilli avec tellement de bonheur. Et du coup, ma galériste à cette époque-là m'a dit « Ah, mais c'est formidable de connaître ça. » Donc, en fait, je n'ai pas du tout eu de soucis avec ça. De toute façon, j'ai accouché 3 jours après, j'avais un pinceau à la main. 3 jours avant, j'avais aussi un pinceau à la main. Donc, ça ne m'a pas posé de problème. D'ailleurs, Mon fils bébé, je m'en suis servi comme modèle, donc il est rentré. Je me suis approprié la vie de mon fils aussi dans ma peinture, donc ça n'a pas été du tout un souci. Et puis je pense à plein d'autres artistes, Louise Bourgeois qui a eu plein d'enfants, enfin bon, il y a plein de gens, d'artistes dans le domaine du cinéma ou dans plein d'autres domaines. Ça n'a pas du tout été un handicap, ça a été une belle expérience. C'est toujours une belle expérience d'ailleurs, parce que je suis encore mère. Je me dis, waouh, c'est moi qui ai fait ça, ça vit tout seul sans moi. Voilà, j'ai beaucoup d'humour. Voilà, je vois ça plutôt comme un épanouissement.
Mais qu'est-ce que tu craignais alors au départ?
Peut-être, pas pour moi. Mais peut-être pour le regard qu'on pouvait avoir de l'artiste. Dans mon aventure passionnelle avec la peinture, j'avais peut-être la crainte que ça vienne empiéter ma passion. Mais pas du tout, en fait. Ça ne l'a pas fait. Ça n'a pas marché.
Et alors, dirais-tu que le travail a été remarqué petit à petit? Est-ce que tu t'es sentie soutenue? Donc, après la fermeture de cette galerie, ça a été compliqué. Mm-hmm. Donc, tu as eu une période sans galerie, mais tu as poursuivi. Donc, mm-hmm. Ça veut dire que tu t'es acharnée ou en tout cas, tu étais persévérante.
Déterminée.
Et comment alors donc tu as continué de poursuivre, et là maintenant tu as des expositions à travers toute la France, donc voilà, comment le parcours s'est poursuivi?
C'est vrai que je disais que les expositions étaient très irrégulières, mais c'est vrai que j'ai été soutenue, j'ai toujours vendu un petit peu mon travail. L'arrivée d'Internet a beaucoup changé. A beaucoup changé la donne, parce qu'en fait on se baladait quand même avec des photos, les gens venaient dans notre atelier, c'était compliqué quand on habitait loin, les visites d'atelier se faisaient rares, on allait dans des vernissages, on rencontrait des gens se déplaçaient quand même pas mal. C'est vrai que l'arrivée d'Internet a quand même permis une diffusion, moi j'ai connu ça, et ça a été extraordinaire. Parce que immédiatement, on envoie des dossiers, on montre son travail, on prend contact, mm-hmm. On envoie des courriers. ça va à une rapidité exemplaire. Et puis alors, Instagram, évidemment.
Oui, les réseaux sociaux.
Les réseaux sociaux, c'est d'une puissance en termes de diffusion incroyable. Ah, oui. Je pense que ça a beaucoup contribué à ouvrir mon travail, enfin à montrer mon travail à un large public. Et moi, je me suis mise même à faire des petites vidéos quand j'ai fait le travail avec le tufting. Et je me suis beaucoup d'ailleurs amusée avec ces vidéos, à grimper à des échelles et à les installer. Pour moi, c'est un jeu. Ces vidéos, je me suis beaucoup amusée à faire ces vidéos. Ça s'est multiplié pendant le Covid. Ça a été vu, je me suis retrouvée avec 12 000 vues du jour au lendemain. Enfin, c'était du délire. Et en fait, je me suis jamais vraiment. Je m'étais dit que montrer peu mon travail, c'était quelque chose qui était tout à fait possible. C'était pas ça le plus important. C'était nécessaire, mais c'était pas ça le plus important. De toute façon, peindre chez moi était une nécessité. Me réaliser, c'était une respiration, donc il fallait que je sois indépendante par rapport au fait de montrer pour continuer à être libre. En fait, c'est plutôt une quête de liberté. Ouais, c'est une quête de liberté. Donc aujourd'hui, je montre beaucoup mon travail, je suis beaucoup sollicitée. C'est une bonne chose, c'est un vrai plaisir de partager. J'ai cette chance. Ça aurait pu ne pas se passer comme ça. C'était pas le plus important. Le plus important, c'est ce qui se passe dans mon laboratoire. C'est mon regard sur ce monde et comment il se traduit. Et qui m'aime me suivre finalement, qui veut le partage. Donc voilà, je ne suis pas dépendante de ça.
Alors, revenons justement dans ton laboratoire. Comment les idées viennent?
Oh là là!
Comment je prenne telle forme?
Oui. Les idées. Les idées, mais c'est tellement mystérieux tout ça. Je ne sais même pas si j'ai une réponse. Il y en aurait tellement des réponses. Quand on parle de l'intuition, je pense à Nietzsche qui parlait de l'intuition comme étant une des intelligences les plus développées. De la nature humaine, d'où elles me viennent ces idées, mais de tellement d'endroits. C'est un mix.
Par rapport à l'image que tu as donnée au début, le cercle et la tangente.
Ah oui, bah ça c'est les idées. Les idées, elles me viennent du monde dans lequel je vis, bien évidemment, de mes interactions avec toi, par exemple. Une idée peut me jaillir comme ça, viennent de mon enfance. C'est difficile ce qui se passe dans un cerveau. Et dans le mien, on est nombreux. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Je me nourris.
Comment tu leur donnes forme?
Je me nourris en fait d'énormément de choses. D'abord, je suis une grande consommatrice d'images sur Internet, partout, de peinture, de tout. En fait, je suis une vorace visuelle et je suis quelqu'un d'assez hyperactif en termes de production. Alors des fois, c'est marrant parce que je vais raconter un peu cette histoire. Je me réveille souvent à 4 heures du matin et à 4 heures du matin, je m'invente je produis dans mon cerveau énormément de choses. Je sculpte, je fais des gestes avec la terre et puis des gestes avec la couleur dans la laine. Je fais des trucs et il se passe plein de choses. Et comme j'arrive pas à dormir et que je suis en créativité intense, je vais tout de suite à l'atelier qui est à 30 mètres de mon lit. Et j'arrive dans l'atelier et tout d'un coup, je vais prendre des pastels et je vais dessiner. Et c'est tout autre chose. J'ai eu beau penser et réfléchir à quelque chose et m'inventer quelque chose dans mon cerveau, tout d'un coup je suis devant la feuille et je prends du bleu et il va se passer quelque chose et puis tout d'un coup la matière va générer quelque chose, une trace de doigt tout d'un coup et ça va prendre la forme d'une cellule, je sais pas moi, d'un animal, d'un morceau de corps, d'une fleur, d'un morceau de paysage, Voilà, c'est très bizarre. C'est très bizarre comme les choses. C'est mystérieux pour moi, finalement, ça. C'est mystérieux.
On va conserver le mystère, alors. Donc, on arrive bientôt au terme de notre entretien. Et j'aimerais bien savoir quelles sont tes envies, tes aspirations actuelles dans ta recherche et aussi peut-être ton désir ou ton rêve d'exposition actuellement, maintenant, là.
Alors, bientôt j'ai une exposition avec 60 mètres linéaires d'œuvres touffetées en alternance avec des dessins. Donc, je trouve que c'est déjà une belle réalisation. Que je garde la santé physique pour encore et encore explorer, découvrir, réaliser. J'ai des rêves de grandeur, de taille. Là, j'ai un projet, j'espère que ça va se faire. J'ai fait des oiseaux en céramique en 2013, et ces oiseaux en céramique vont être réalisés en bronze de 1 mètre. Voilà, toute une série, c'est Icar. C'est un ensemble d'oiseaux qui serait mis à l'extérieur. Donc voilà, ça c'est mon prochain projet qui me fait fantasmer. C'est de réaliser des choses qui me dépassent. Voilà, et d'avoir la santé pour réaliser ces choses-là.
On va te souhaiter d'avoir cette énergie pour poursuivre.
Voilà, c'est ça, conserver cette énergie.
Et donc, pour se quitter, j'aimerais bien qu'on revienne sur une œuvre qui t'a marqué, qui est peut-être à l'origine de ton envie de devenir artiste, ou une œuvre qui t'a bouleversée, qui t'a touchée. Ouais.
Alors, je reviens sur la question de devenir artiste, parce qu'en fait, je ne le suis pas devenue. Le terme d'artiste, plutôt un terme social, mais oui, voilà, je ne suis pas devenue artiste. Et alors, une œuvre, c'est difficile. Je pense que en chaque chose, il y a une espèce de conscience des choses. Moi, je pense toujours au philosophe. Tout d'un coup, le philosophe... j'ai discuté il n'y a pas longtemps avec Cécile Marie, qui est un philosophe de l'art, en esthétique. Et en fait, tout d'un coup, le philosophe, c'est une prise de conscience. Eh bien, moi, il y a une prise de conscience visuelle et tout d'un coup, une fascination. Waouh, mais comme c'est incroyable, comme c'est beau. Et tout d'un coup, il se passe quelque chose, c'est une rencontre. Donc, en fait, c'est à chaque instant, c'est aussi une attitude, c'est comme une sorte de disponibilité du monde dans lequel on est, dans lequel je suis. De dire qu'il y a une rencontre en particulier, non. Je suis fascinée par tellement de choses. Je ne pourrais pas définir une seule chose. Je regarde des images scientifiques, je me dis, waouh, mais ça, tu te rends compte, ça, mais tu as vu, mais c'est fascinant. Et tout d'un coup, me vient plein d'associations, plein de... Voilà, c'est juste une prise de conscience.
Et on va terminer là-dessus. Ouais. Claude Comeau, merci beaucoup.